Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Geek, comme chaque semaine avec Marjorie. Salut Marjorie.
Salut à tous.
Alors cette semaine, une émission un peu particulière sur les animaux fantastiques. Nous vous avons déjà parlé du film. Nous vous avons parlé la semaine dernière également du dernier livre sorti dans l'univers d'Harry Potter, Harry Potter et l'enfant maudit. Eh bien, on revient cette semaine sur un univers un petit peu étendu autour des animaux fantastiques. Et on le fait pas seul, on le fait avec nos experts, Chloé, Ludo et Clément. Marjorie, je te laisse nous en dire un peu plus sur les experts, leurs spécialités et puis surtout là où on les retrouve le plus souvent, c'est-à-dire en vidéo sur Internet et sur YouTube en particulier.
Oui, pour chacune de nos vidéos, en fait, nous avons plusieurs experts. Donc un expert littérature qui est Chloé et qui, avec le thème du mois, nous fait quelques merveilles et nous fait découvrir quelques livres, surtout ceux qu'elle a préférés, mais pas que. On a aussi Ludovic qui s'occupe des jeux de plateau et des jeux de société. Pareil, qui nous fait découvrir un petit peu ses coups de cœur, ses passions. Et Clément, enfin, pour la partie jeux vidéo. Voilà, il nous fait découvrir des jeux qu'on ne connaît pas, des jeux d'auteur ou même des jeux à licence. Et c'est ce qu'il fait tous les mois dans les vidéos de Génération Geek, à retrouver sur YouTube bien sûr.
Alors on va commencer par Ludovic peut-être, Ludovic qui va nous parler d'un jeu qui est un jeu de cartes. Ça s'appelle Chasseur de légendes et il va en parler beaucoup mieux que nous.
Sorti cette année aux éditions Gigamic, Chasseur de légendes nous donne l'eau à la bouche avec un titre pareil. Si la mécanique est simple et plutôt fun, la réalisation laisse hélas à désirer. Les règles concises ne concordent pas avec le nombre de créatures et on se retrouve facilement avec des cas de figure que les règles ne précisent pas. Chasseur de légendes se lance dans un créneau déjà surchargé. Bien sûr, la mécanique est simple et j'ai assurément pris plaisir à tester ce jeu, mais c'est un énième jeu de cartes à combinaison dont on connaît tous les mécaniques. Sur un marché aussi chargé que celui-ci, on ne peut se contenter d'un jeu juste sympa. Préférez-lui Fantasy aux éditions Asmodée, avec une mécanique excessivement simple et un prix tout aussi simple.
Voilà, comme le précisait Ludovic, Chasseur de légendes, c'est un jeu qui est paru chez l'éditeur Gigami, qui se joue de 2 à 5 joueurs, et il est recommandé à partir de 10 ans. Alors c'est plutôt dans un jeu qu'on classe dans la catégorie des petits jeux, c'est-à-dire des jeux apéro, notamment par le format avec cette boîte qui est vraiment toute petite, mais aussi par sa durée qui est relativement courte, alors un peu longue pour un jeu apéro, puisqu'on parle d'une durée de 45 minutes en moyenne, mais voilà, on est vraiment au-delà des parties de jeux de stratégie. On pense à quelques jeux qui sont vraiment très très longs, Zombicide par exemple.
Ou Mice and Mystique.
Voilà, là on a des parties qui font au bas mot 2h, 2h30, voire 3h. Alors, au niveau des visuels, hein, sur Chasseur de légendes, les illustrations sont plutôt jolies. Néanmoins, moi je suis pas très très fan du traitement graphique global. Je trouve que c'est plutôt chargé et assez confus dans le design. Bon, après voilà, c'est une question de point de vue. Voilà, on peut dire normalement que l'illustrateur a fait un travail de qualité, mais voilà, le traitement global, moi, me plaît un petit peu moins. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Marjorie.
Moi j'aime bien, j'ai pas d'avis particulier. Après, les jeux de cartes, c'est pas vraiment ma spécialité. De ce que j'en vois sur les cartes, c'est plutôt sympathique. Les illustrations, par contre, la boîte en elle-même, là ça pêche un peu. Enfin, mon point de vue.
Alors quand on regarde un petit peu le verso de cette boîte de jeu, les points forts, c'est les nombreux rebondissements, la prise de risque et puis le fait qu'il soit simple et prenant. Le défaut, hein, lui dont on a parlé beaucoup, c'est cet aspect effectivement simpliste des règles. Mais du coup, même si les règles sont très courtes et dans ce cas-là faciles à aborder, eh bien, il y a beaucoup de points qui sont un peu négligés et des cartes qui rentrent plus ou moins en conflit et chargent le joueur de se débrouiller entre ces différentes cartes qui parfois s'opposent un petit peu. Alors on peut citer quand même les auteurs donc de ce jeu Chasseur de légendes. L'auteur c'est Johannes Schmidorg-Gonning, voilà, j'espère que j'ai pas trop écorché son nom, et l'illustrateur c'est Dennis Lausen, donc chez Gigamic, et voilà, ça coûte une quinzaine d'euros. Alors on passe maintenant, on prendra tout à l'heure sur la partie jeu, avec un jeu un petit peu plus imposant, un jeu qui s'appelle The Big Book of Madness, mais je vous propose de partir maintenant du côté des jeux vidéo. Là c'est le coup de cœur de Clément.
C'est Dust. Dust, c'est un héros un peu apathique, mais il est accompagné d'une chauve-souris croisée avec un raton rouge, me semble, et du coup c'est plutôt sympathique apparemment.
Alors là on est vraiment typiquement sur un jeu d'auteur, c'est pas la grosse scène en jeu vidéo, c'est-à-dire c'est pas tous les blockbusters qu'on peut dont on peut voir les publicités à la télé et qui vont à l'approche de Noël sans doute garnir bien des sapins. Mais on est sur voilà, un jeu, ce qu'on appelle la scène underground.
Dust est un petit chef-d'œuvre paru en 2012, tout d'abord publié sur la plateforme Xbox Live Arcade, la plateforme dédiée à la Xbox 360 et la Xbox One, puis en 2013 sur PC et enfin en 2014 sur PlayStation 4. Dust est un RPG beat'em all, entendez par là que le héros va affronter toute une foule d'ennemis à l'écran, héros qui est un guerrier au passé plus ou moins trouble. Fidget est une créature, une gardienne de l'épée dont s'empare Dust au début de l'histoire et qui va le suivre tout au long de son périple. Fidget est une sorte de mélange entre un écureuil roux et une chauve-souris. Bien qu'elle soit moins séduisante que les compagnes de Geralt dans The Witcher, que sont les deux magiciennes Triss et Yennefer, Fidget est bien plus amusante. Elle enchaîne les répliques drôles, l'ironie et la moquerie, et prend le rôle de véritable conducteur émotionnel d'un héros insensible, voire apathique. Tout cela pour dire que les héros ne sont pas forcément ceux que l'on attend, et que les créatures fantastiques qui peuplent les univers sont aussi importantes que tout le reste. D'ailleurs, j'aimerais aussi rendre hommage à Dean Dodrill, un artiste sûrement un peu fou qui a passé pas loin de 4 années à concevoir toute la partie graphique du jeu. Il n'est pas responsable du scénario ni de la bande sonore, mais il a quand même fait tout le reste. Toute la partie graphique, toutes les animations. Et je peux vous assurer qu'au vu du résultat final, on ne peut être qu'admiratif. Chapeau l'artiste.
Dust, hein, c'est vraiment pas un blockbuster, c'est un jeu indépendant. Voilà, comme le souligne Clément, son auteur a passé un temps considérable et l'équipe a été très réduite pour faire ce travail. Néanmoins, c'est un jeu qui est vraiment agréable visuellement, les graphismes sont plutôt très colorés. Et c'est un jeu de plateforme, c'est-à-dire que c'est un jeu plutôt en deux dimensions. Alors c'est relativement rare, notamment sur les fameux blockbusters des jeux, on a l'habitude d'avoir des jeux plus immersifs, des jeux en trois dimensions maintenant. Si vous pensez à un jeu comme FIFA, voilà, vous incarnez un joueur de foot, mais vous l'incarnez sur un terrain qui est modélisé en tout cas en trois dimensions. Là on est sur deux dimensions, un peu comme un Super Mario ou ce genre de jeux anciens. D'ailleurs, dans la catégorie de ces jeux qui sont visuellement très intéressants, on a découvert à l'occasion de promotions et même de cadeaux de la part d'Ubisoft, Rayman Origin, qui est comme ça un jeu en deux dimensions, et c'est voilà, plutôt agréable à jouer quel que soit l'âge. Et bah Dust a fait partie de voilà, ces jeux-là qui ont ce charme-là et dont les graphismes et cette couleur-là est vraiment intéressante. Et puis encore une fois, hein, ça rentre dans le cadre des animaux fantastiques, non pas par ce héros Dust, mais par son compagnon.
Oui, comme dans bien des jeux, de toute façon, c'est le compagnon à quatre pattes qui est le plus intéressant, comme par exemple, sans les citer, Milou, Idéfix, tous les grands héros ont leur petit compagnon, et faut avouer que celui de Dust, il est plutôt sympathique à regarder.
C'est vrai que c'est toujours assez amusant finalement. Alors ça c'est plutôt dans l'univers de la bande dessinée du coup, mais la référence est pour le coup super intéressante. Enfin, si on prend Astérix et Obélix, et particulièrement Obélix, il y a Idéfix qui donne cette touche tout à fait sympathique. Tintin à Milou avec voilà, cet animal qui est presque en train de parler, qui a même quelques bulles, quelques phylactères de temps en temps pour donner un mot... Un mot savant, Spirou et Fantasio, eh bien Spirou a son Spip, un écureuil roux, là aussi. Et puis, je pensais à Lanfeust. Alors Lanfeust, c'est un héros qui est un peu plus récent. Bon, alors lui, il n'a pas d'animal de compagnie proprement parlé, mais il a un troll, Ebus, qui lui est très très présent. Et effectivement, ce duo avec voilà, un héros et son compagnon, c'est toujours intéressant. Même des personnages dans les jeux de rôle qui effectivement ne vont pas sans leur compagnon. Dans littérature, on a Dritz, l'elfe noir, qui effectivement est accompagné de Genwivar, ou Genwivar, je ne sais pas comment on le dit exactement, qui est une panthère noire magique. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, cette présence des compagnons. On parlait tout à l'heure du monde d'Harry Potter, et on va laisser Chloé dire quelques mots sur Harry Potter. Bah, chaque sorcier a aussi son familier, comme ça. Harry Potter, il a une chouette, je crois.
Edwige, une chouette blanche.
Mais Ron et Hermione ont aussi d'autres compagnons.
À Ron, il a un rat. Voilà, il a un rat qui s'avère ne pas être un rat. Je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas encore lu les livres. Et Hermione a son fameux patin rond, qui est un chat, qui, à ma connaissance, n'a rien de magique, à part le fait qu'il soit très agaçant et très casse-pied.
Alors justement, Harry Potter, notre spécialiste, notre fan inconditionnel d'Harry Potter, c'est Chloé. Elle a quelques mots à nous dire justement sur les animaux fantastiques et le bestiaire magique qu'on a dans Harry Potter.
Eh ouais, une fan telle que moi ne peut pas passer à côté de l'œuvre de J.K. Rowling. Si vous faites partie de ma génération, vous avez sans doute grandi avec le célèbre Harry Potter ainsi qu'avec ses deux acolytes, Hermione et Ron. Que ce soit le Cerbère dans le premier tome, le Basilic dans le second ou l'Hippogriffe dans le Prisonnier d'Azkaban, les créatures fantastiques ont pris une place de choix dans la littérature. Et ouais, je crois qu'au vu du contexte, on a vraiment besoin de s'évader. Pour cette émission et parce que le sujet s'y prête, j'ai eu envie de vous présenter quelques beaux livres. Et là, je vais vous présenter ma référence, ma bible, en termes de créatures du fantastique. Ça s'appelle « La grande encyclopédie du merveilleux ». Ici, gnomes, fées et autres dragons y sont référencés. Pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai eu envie de vous lire la dédicace de l'auteur Édouard Brézy. À tous les magiciens du verbe et toutes les fileuses de paroles, à tous les meneurs de loups et tous les chasseurs de chimères, au soleil noir qui illumine nos ombres, et aux baisers de sang qui déchirent nos nuits.
Alors ces animaux fantastiques, hein, on en trouve évidemment dans toutes les cultures. On a choisi pour cette émission parce que c'est un peu la continuité aussi des animaux fantastiques, le film et de cet univers médiéval fantastique, de parler évidemment du bestiaire plutôt moyenâgeux au niveau effectivement de l'Europe, donc le Moyen-Âge européen, mais on peut trouver bien sûr des bestiaires également dans différentes cultures, notamment en Asie, il y a un bestiaire qui est extrêmement, extrêmement riche. Après, ce bestiaire, il s'enrichit au fil du temps et au fil des différentes créations des auteurs. Évidemment, quand Tolkien sort Le Seigneur des Anneaux, il s'inspire de bestiaires existants, de créatures existantes qui sont alors parfois effectivement des animaux, parfois plutôt des êtres humanoïdes, on va dire, hein, quand on parle des trolls, quand on parle des ogres, etc., on est sur des êtres humanoïdes. Mais il y a aussi voilà, ces aigles géants qui sont présents chez Tolkien, il y a un ours métamorphe aussi, enfin voilà, il y a beaucoup d'éléments qui sont comme ça extrêmement intéressants. Un jeu qui s'inspire beaucoup de ces différents univers, alors moins Tolkien effectivement que J.K. Rowling, mais que d'autres, c'est The Big Book of Madness. Petite présentation à nouveau par Ludovic.
J'ai testé pour vous The Big Book of Madness. Non, ce n'est pas l'album collector de mon groupe de ska préféré, mais un jeu coopératif. Il s'agit d'incarner un groupe d'étudiants en magie qui trouve dans le sous-sol du Collège des Éléments un livre contenant la plus grande magie du monde et qui la libère. Ils devront vaincre les créatures ainsi libérées pour pouvoir refermer ce satané livre. Et croyez-moi, ça sera pas de la tarte. La difficulté est bien dosée et la mécanique, quoiqu'un peu délicate à prendre en main au départ, est bien pensée. En effet, elle oblige les joueurs à réfléchir ensemble à la meilleure stratégie pour le groupe. Les illustrations sont vraiment sympas. Et si le background fait apparaître des influences de Terry Pratchett et de J.K. Rowling, elles ne sont pas sans rappeler les comics dans le trait et Warcraft ou Lovecraft dans leur modèle.
Alors là, vraiment, hein, autant sur Chasseurs de légendes, moi j'étais pas séduit par le design global, même si les illustrations étaient plutôt de qualité. Là, on peut dire très clairement que autant le design du jeu que les illustrations sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est un jeu qui est sorti chez Yellow et c'est un jeu de Maxime Rambourg et de Nayade.
C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 personnes pour les 12 ans et plus. Et alors là, pas de panique, les parties durent de 60 à 90 minutes. Ce qui est quand même assez raisonnable comparé à d'autres jeux de plateau pour le moins très spectaculaire niveau timing, qui dure 3 heures, là, 1h30 grand max, moi je dis c'est pas mal.
Alors voilà, si vous voulez incarner un apprenti magicien, sans être vraiment dans l'univers des jeux à licence, avec un jeu qui serait issu, pourquoi pas, de l'univers d'Harry Potter ou autre, et bien là vous pouvez vous retrouver avec un univers original, inspiré bien sûr de tout ce qui se fait dans le monde de la fantasy, mais sans avoir une licence à coller, et un travail néanmoins vraiment de grande qualité. Toujours sur les animaux fantastiques, peut-être qu'on peut faire une petite pause et puis après on va retrouver à nouveau Chloé pour nous parler de livres et on va passer faire des créatures qui sont beaucoup plus grandes avec des ailes. De retour dans Génération Geek, où on vous parle des animaux et des créatures fantastiques à travers voilà, différents médias, qu'ils soient jeux vidéo, qu'ils soient bandes dessinées, qu'ils soient beaux livres, qu'ils soient jeux de plateau, accompagnés par nos experts, Chloé, Ludovic et Clément, des experts qu'on trouve bien sûr en vidéo. Et si vous allez sur la page YouTube Génération Geek ou sur le compte Facebook, vous allez pouvoir retrouver voilà, une petite vidéo d'une dizaine, une douzaine de minutes qui voilà, vous présente un petit peu ces différents produits. Puis n'hésitez pas, hein, à aller faire un tour sur la page Facebook de Génération Geek pour découvrir ces produits, quelques photos et puis éventuellement quelques articles pour en découvrir un peu plus et les liens éventuellement des éditeurs. Il y aura un site internet aussi qui va venir qu'en stand-by. On est en train de travailler sur un projet assez important, mais évidemment ça prend un peu de temps. Il s'agira d'un site internet où vous pourrez retrouver différents conseils culturels. On n'essaiera pas de faire quelque chose où voilà, on note les produits, c'est pas le but. Simplement, plutôt que de vous laisser fouiller dans les différentes boutiques de jeux, de jouets, les magasins de bandes dessinées et dans une cinémathèque vaste, on essaiera de vous conseiller les quelques ouvrages ou les quelques jeux à voir, en tout cas qui ont tenu notre attention et qui méritent le détour. On continue dans ce petit parcours, Marjorie, des créatures fantastiques avec des animaux ailés.
Avec des dragons, me semble, mais Chloé pourra vous en parler un petit peu mieux que moi. Je crois qu'elle a quelques livres en réserve pour vous.
Deux ouvrages que je vous conseille particulièrement et qui ont la même forme et le même parti pris. Les deux livres parlent des dragons. Et oui, qui n'a jamais rêvé d'approcher ces créatures magnifiques et grandioses que sont les dragons? Le premier ouvrage, c'est celui-ci, d'Eliane Blackmore, sur la piste des dragons oubliés. L'auteur, par un carnet de voyage, nous montre des croquis et nous raconte ses aventures au pays des dragons, en Bretagne, en Écosse et en Irlande. Le second, le voici, Principe de l'art de dresser les dragons, de Kebb Offray. L'auteur nous explique comment dresser un dragon. Il nous explique l'art du débourrage, l'art du vol, et nous donne même quelques conseils médicinaux si jamais notre dragon tombe malade. J'ai particulièrement aimé ce livre parce qu'il me rappelle certains livres de sorcellerie.
Alors vraiment, les dragons, c'est des créatures qui sont extrêmement fascinantes. Je crois que parmi toutes les créatures fantastiques, il y en a beaucoup, hein. Effectivement, on pense assez facilement aux licornes, aux hippogriffes. Après, il y a plein de noms de créatures plus ou moins complexes, qui souvent mélangent d'ailleurs des corps d'humains, des corps de bêtes, des têtes d'humains, des différentes parties d'animaux les unes avec les autres, parfois qui ont été inspirées de découvertes. La licorne, typiquement, on le sait bien, c'est les cornes de narval qui ont été retrouvées, et comme elles devaient être retrouvées sans doute près des côtes ou à l'intérieur des terres, en tout cas, il y a cette légende de cheval avec cette corne sur le nez. Quand on prend un manticore en hippogriffe, on est directement sur un assemblage d'éléments différents, voilà, des ailes d'aigle, un corps de lion, une queue de scorpion, des choses un peu étranges, du coup un animal qui n'est pas forcément extrêmement cohérent. Quand on pense aux sirènes, eh bien effectivement un corps de femme et une queue de poisson, c'est assez étrange, mais là encore on est sur une inspiration des pirates et le fait d'entendre les chants des baleines, des choses comme ça. Le dragon, on est aussi sur un assemblage, effectivement, puisque quand on regarde l'imagerie médiévale, on est sur des ailes plutôt d'oiseaux et sur un corps de serpent auquel on colle plus ou moins des pattes griffues. Mais dans les représentations classiques qu'on a, eh bien ça devient réellement un animal cohérent, une espèce de dinosaure géant avec à la fois des pattes et des ailes.
En fait, je crois que le dragon est à mi-chemin entre deux univers d'animaux fantastiques. Il y a les animaux fantastiques comme les enfants se le représentent, un peu sympathiques comme la chouette Edwige de Harry Potter, ou comme un rat qui fait des tours de magie, ce genre de choses plutôt enfantin et bon enfant. Et il y a les créatures fantastiques plutôt mythologiques qui, elles, sont pas là vraiment pour nous amuser. Des vampires, des loups-garous, des cocatrix. Allez voir des cocatrix. Je peux vous assurer que rien que la photo vous fera un peu frissonner. Et le dragon peut être à la fois dans ces deux ces univers-là. Pour les enfants, un dragon, c'est chouette, on veut tous un dragon. Et pour les adultes et dans la mythologie, les dragons, c'est quand même synonyme de quelque chose de pas très sympathique quand même. Enfin, ça fait un peu peur, les dragons aussi.
Et alors, c'est vrai qu'ils ont gagné avec le temps une cohérence, puisque bah, quand on ce que je disais, hein, quand on voit les récits moyenâgeux, bah, on met des plumes avec un corps de reptile, et puis plus le temps passe, plus effectivement on a vraiment des animaux qui sont visuellement intéressants. Et ce qui est étrange aussi, c'est ce qu'on dit des dragons, c'est-à-dire qu'il y a tantôt un dragon comme Smaug, qui est le gardien du trésor chez le Hobbit, donc c'est le dragon qui dort sur son or, sur son trésor, qui est absolument malfaisant, etc. On a des dragons bien plus gentils, je pense au dragon de ce film. Alors c'est pas le jour le plus long, non, c'est l'histoire sans fin, le jour le plus long, c'est quand même un autre univers, où on a un dragon en peluche quasiment, alors énorme mais complètement bienfaisant, un dragon tout doux. J'ai plus le nom de ce dragon, je sais pas si tu t'en rappelles, Marjorie.
Je sais plus.
Non, tu l'as plus en tête non plus, mais voilà, là on est encore sur quelque chose de très différent. Puis souvent on a des créatures à mi-chemin qui sont effectivement intelligentes, qui sont au moins aussi intelligentes que les hommes, souvent avec des pouvoirs magiques. Il y a assez régulièrement ce côté cracher le feu, mais il y a toujours une magie puissante qui entoure les dragons. Je vous recommande d'ailleurs assez fortement de lire Eragon. Alors, Eragon, le film, je vous donnerai peut-être un petit mot dans une minute. Marjorie, Eragon, le film, c'est peut-être pas une catastrophe, mais c'est pas en tout cas une énorme réussite. En tout cas, la série de Christopher Paolini, la série de livres, puisqu'il y a 4 tomes, les 4 tomes donc, de l'héritage, est vraiment intéressante sur les dragons et sur cette dualité entre le dragon et puis, non pas l'éleveur de dragons, mais celui qui monte le dragon, qu'on appelle dragonnier, donc dans cette quadrilogie, où il y a vraiment une relation qui est très forte, une relation entre de la magie également. Alors juste un mot peut-être sur le film Eragon.
Eragon, regardez-le si vous en avez envie. Personnellement, j'ai pas beaucoup aimé. Heureusement qu'il y a Jeremy Irons dedans, ça sauve un peu la chose. Après, je pense que j'étais trop vieille pour le regarder. Enfin, voilà, j'avais 18 ans, j'étais un petit peu trop vieille.
En tout cas, moi, je vous recommande vraiment chaudement les livres. Et puis pour finir avec une petite note sur le jeu vidéo et Clément qui nous parle d'un jeu qu'il a beaucoup aimé et qui est très riche également. Un jeu qui a à la fois sur voilà, un jeu qui a marché commercialement, mais qui a aussi eu de très bonnes critiques de la part de la presse et des critiques en général. Attention, c'est un jeu classé PEGI 18, donc qui n'est pas destiné du tout aux enfants de moins de 18 ans, mais dont le bestiaire est riche et qui a un vrai travail aussi scénaristique, c'est The Witcher 3. Quelques mots de la part de Clément.
Connaissez-vous le bestiaire bien plus terrifiant de la série The Witcher, notamment celle du dernier épisode, The Witcher 3, The Wild Hunt, ou la traque sauvage pour les anglophobes. Cet épisode nous place dans la peau de Geralt de Rive, un puissant sorceleur, une caste de tueurs de monstres qui ont acquis eux-mêmes des capacités monstrueuses pour rivaliser avec leur proie, ou les créatures dont ils sont victimes d'ailleurs. Et dans ce bestiaire monstrueux, on y trouve des créatures connues, cocatrix, manticore, loup-garou, vampires, prêtes à vous bondir dessus pour vous bouffer. Si The Witcher 3 joue allègrement avec ces diverses créatures, le jeu réadapte celles-ci pour créer sa propre mythologie et coller à l'ambiance Dark Fantasy de la saga, à mi-chemin entre l'horreur et le fantastique, où la notion de bien et de mal, de monstre ou d'humain, est très souvent bien floue. Il est à noter que le Gwent, un jeu traditionnel dans l'univers de The Witcher, va bientôt paraître comme jeu indépendant. Il s'agira d'un card game, comme l'est le célèbre Hearthstone de Blizzard.
Donc on le rappelle, hein, c'est un jeu qui est voilà, interdit, déconseillé en tout cas aux personnes de moins de 18 ans, mais c'est vraiment un beau jeu et donc on vous le recommande chaudement. J'espère qu'on vous a donné envie, en tout cas avec Marjorie, d'investir un petit peu plus et de découvrir un petit peu plus les bestiaires qui peuplent les univers fantastiques. Vous voyez, c'est un champ qui est extrêmement large et puis il y a plein de médias qu'on peut retrouver. Un dernier mot pour nous dire quand même, Marjorie, où est-ce qu'on peut quand même nous retrouver, et si vous voulez retrouver nos experts notamment sur le site ou en vidéo.
Alors, si vous voulez retrouver nos vidéos, allez donc sur notre page YouTube à Génération avec un S et Geek avec un S. Vous trouverez les liens sur notre page Facebook, pareil, Génération avec un S et Geek avec un S. Quant à notre site internet, quand il sera mis en ligne, n'hésitez pas à vérifier de temps en temps, c'est www.generation-geek.com.
Merci, à la semaine prochaine, salut.
Salut. Bonjour.